Chapitre 27. Marie comme il y en a tant. Établissons-nous avec nos amis dans leur élégant domicile situé rue de l'Université et prenons notre part des bruyants plaisirs qu'ils vont goûter. D'abord Briceval, que son oncle, immensément riche comme l'on sait, avait aussi doté de son côté, donna à sa femme une voiture, des gens et tous les meubles de fantaisie ainsi que les ajustements du dernier goût. Jeannette, nous servirons-nous encore de ce nom ? Madame de Briceval eut les plus beaux diamants, tout ce qu'elle voulut, et il sembla que son épouse fit un devoir de voler au-devant de ses moindres vœux. Mais cet époux si généreux, si grand en procédé, bornait là l'épreuve de sa tendresse. Il était toujours triste, mélancolique, et quand sa femme lui faisait la guerre de sa misanthropie, il soupirait, se levait et sortait. Jeannette s'aperçut bientôt que son époux n'avait pour elle que de l'estime, et même une estime très froide. Elle fit part de cette remarque affligeante à sa mère, qui lui répondit « Mais tu rêves, mon enfant, je ne vois pas cela du tout. Ton mari est plein de procédés, et les petits soins qu'il a sans cesse pour toi sont, je crois, assez de preuves de sa tendresse. » Jeannette crut sa mère et elle se fit peu à peu au caractère de son mari, qu'elle trouvait d'ailleurs toujours honnête, délicat et empressé de lui plaire. Malgré la marche rapide de la Révolution, l'hiver de cette année fut très agréable et offrit mille plaisirs variés. Tous ces plaisirs étaient nouveaux pour Jeannette, qui n'en avait jamais joui. Les concerts du théâtre Feydeau lui plaisaient surtout singulièrement. Elle était peu musicienne, mais elle aimait la musique et, depuis son mariage, elle l'étudiait avec passion. Le célèbre Gara lui paraissait être un chanteur par excellence. « Mon Dieu !» disait-elle à son mari, « comme ce jeune homme a du goût et avec quelle âme il fait valoir tout ce qu'il chante. Madame de V a du talent sans doute aussi, mais elle n'est pas sûre de ce qu'elle chante. » Sa voix fraîche et délicieuse tremble, et la timidité paraît étouffer tous ses moyens. « C'est dommage, madame, lui répondait Briceval, car il est difficile de posséder une voix plus touchante et plus mélodieuse. Si vous voulez l'entendre, ma chère amie, j'ai l'honneur de la connaître, nous arrangerons un petit concert, et vous verrez qu'elle est tout autre dans un salon. » Madame de Briceval fut enchantée de la partie que lui proposait son époux. On prit un jour. Briceval se chargea des invitations et une société brillante et nombreuse vint embellir cette fête, nouvelle pour Jeannette. On la pressa de chanter, elle ne se fit pas prier et un célèbre compositeur italien l'accompagna au piano. Tout le monde s'entretenait de ses grâces, de ses talents et de son aimable caractère. Briceval remarqua que sa femme était le but de l'attention générale et son légitime amour-propre en fut flatté. Cette soirée charmante en emmena d'autres chez les personnes étrangères qu'on y avait invitées, et Jeannette se trouva lancée ainsi dans la société. Les bals succédèrent, puis l'été, nouvelle mode adoptée en France d'après la coutume des peuples voisins, et l'hiver se passa ainsi pour Jeannette en fêtes et en plaisirs de tout genre. Partout elle était, sinon la plus jeune, du moins la plus aimable et la mieux mise. Son époux avait la manie de briller, et Jeannette, qui, femme comme une autre, ne haïssait pas la coquetterie, en profitait sans en abuser. Sa mère l'accompagnait partout, et cette femme estimable jouissait des éloges qu'on prodiguait à sa fille. Cependant, les préférences accordées à Jeannette par les hommes et dans tous les cercles excitèrent la jalousie des femmes. On murmura tout bas que ce n'était pas grand-chose, une pauvre fille, tout bonnement élevée aux enfants trouvés, adoptée ensuite par charité. On publia même qu'un de ses oncles avait mérité une sentence infamante pour un crime qu'on exagéra, et bientôt la pauvre Jeannette se vit l'objet des coups d'œil malins, des sourires sardoniques. Elle en apprit la cause, et sa raison réprimant ses désirs de jouir, elle renonça soudain à toute société. C'est alors que le souvenir de Cécile lui devint plus amer. Elle n'avait pas cessé d'y penser, elle avait même fait quelques démarches vagues, mais, entraînée par le tourbillon des plaisirs, elle n'avait pu, ainsi qu'elle l'avait projeté, s'occuper tout entière de son amie. Elle se promit de ne rien négliger pour découvrir ses traces. Briceval, de son côté, toujours en proie à sa sombre mélancolie, ne s'était livré à la société que pour sa femme, pour laquelle il avait une grande estime et un sincère attachement. Il fut ravi de voir que, d'elle-même, elle se retirait des cercles méchants et corrupteurs où elle s'était jetée d'abord en étourdie. Une nouvelle triste vint encore ajouter à leur goût commun pour la solitude. Le vieil oncle Jules, que sa goutte avait retenu tout l'hiver dans la maison de sa sœur à Chartres, y venait de mourir. Cette circonstance, qui affligea beaucoup plus Madame d'Héricourt que Briceval, rappela nos amis à Chartres. Briceval était l'unique héritier de cet oncle qu'il avait élevé. Il lui fallait faire différents voyages pour recueillir sa succession, et surtout en Amérique, où il possédait de vastes habitations. En conséquence, Briceval, voyant le printemps annoncer un été superbe, résolut de ne pas différer plus longtemps son voyage aux îles, voyage qui devait l'éloigner pendant 6 mois au moins. Madame Briceval éprouva un véritable chagrin en pensant qu'elle allait vivre quelque temps séparée de son époux, mais décidée à passer ce temps fatal auprès de sa mère, elle mit un régisseur sûr dans son hôtel de Paris et suivit Madame d'Héricourt, qui voulait finir ses jours dans sa maison de Chartres. Cependant, ces deux femmes, isolées et tristes, devaient avoir une société agréable pour elles et à laquelle elles étaient bien éloignées de s'attendre. Quelques jours avant son départ, Briceval, qui paraissait de plus en plus triste et soucieux, disparut sans rien dire à personne et ne revint que le surlendemain matin, au grand contentement de son épouse, que son absence avait singulièrement inquiété. Briceval descend de voiture et tient dans ses bras un jeune enfant, beau comme l'amour, âgé tout au plus de 4 ans. « Ma femme, dit-il à Jeannette qui s'est empressée au-devant de lui, jusqu'à présent, le ciel n'a pas décidé encore que vous devinssiez mère, soyez-le dès ce moment. » Oui, daignez servir de mère à ce pauvre enfant auquel je m'intéresse beaucoup. Je l'ai vu naître, j'ai connu sa mère infortunée qu'il a perdue pour jamais. Jeannette, si tu veux faire une chose agréable à ton époux, ce sera d'élever cet enfant comme le tien. J'ai promis à ses parents de ne jamais l'abandonner, d'égaler leur tendresse pour lui. Hélas, il ne les connaîtra jamais. « Eh quoi, mon ami ? Répond Jeannette. « Cet enfant est orphelin et tu daignes lui tenir lieu de père ? Pourquoi me l'as-tu caché jusqu'à présent ? Que ne m'as-tu dit plus tôt ?»« Je ne le pouvais pas, mon ami. J'ignorais moi-même que cet enfant pût un jour entrer dans ma maison. Il recevait, alors, les caresses de son père. « Qui n'est plus, apparemment ? Était-ce un homme aisé ? Un infortuné ? Un indigent que tu protégeais, que j'aimais comme moi-même. Enfin, Jeannette, qu'il te suffise de savoir que je m'y intéresse. Prends cet enfant, qu'il adoucisse les ennuis de mon absence et qu'à mon retour, je te vois partager l'affection que je lui ai vouée. N'en doute pas, mon ami, qu'il est joli. Comment s'appelle-t-il ? Ah ah ! Oui, son nom, il est essentiel en effet que tu saches. Il s'appelle... Auguste. Auguste, eh bien, qu'il me soit aussi cher qu'à toi. Quel âge ? 4 ans environ, n'est-ce pas ? Le voilà au même âge où je fus recueilli jadis par M. d'Héranville, par un bienfaiteur aussi généreux que sensible. Rendons à l'orphelin les mêmes soins qu'on a prodigués à mon enfance abandonnée. Oui, faisons pour lui ce qu'on a fait pour la pauvre Jeannette. Enfant, je fus comme toi, et comme toi, j'ai trouvé une famille nouvelle, des protecteurs. Sois mon fils dès ce moment, et que jamais ce que le ciel peut m'envoyer n'altère la tendresse que je te dois jusqu'à ton établissement dans le monde. Mon cher Briceval, c'est un véritable cadeau que vous me faites là. Briceval regarda sa femme avec un intérêt si vif qu'une larme tomba de ses paupières. Il prit ensuite les mains de Jeannette et les serrant dans les siennes, il lui dit d'un ton de voix étouffé « Tu es une bien digne femme !» Il embrassa le petit Auguste, fit ses adieux à son épouse, à sa belle-mère et partit pour son grand voyage. Madame de Briceval fut d'abord affligée de recevoir les adieux d'un époux qu'elle allait perdre pour longtemps, mais bientôt, en pensant qu'il lui écrirait souvent et qu'il presserait ses affaires ainsi qu'il l'avait promis, Elle se livra tout entière aux caresses que l'enfant méritait. Elle demanda cependant à Madame d'Héricourt si elle avait entendu quelquefois son neveu parler de cet enfant et de sa famille. « Jamais, répondit sa mère, voilà la première fois que je le vois, que j'entends prononcer son nom. Si mon frère vivait, il nous mettrait sans doute au fait, car lui qui accompagnait partout son neveu, il devait connaître ses amis, ses sociétés. C'est sans doute le fils de quelque domestique, de quelque indigent à qui il faisait du bien, car il a un excellent cœur, ton mari, ma chère. Oh, le meilleur cœur! Il faut néanmoins qu'il ait pris bien de l'intérêt aux parents de cet enfant, car il en parlait. Il regardait Auguste d'un air si tendre. Son cœur battait violemment, et j'ai remarqué même que ses yeux étaient mouillés de larmes. C'est que ces gens-là étaient apparemment bien malheureux. J'ai ouï dire à mon frère que ton époux, même en voyageant, allait secourir l'indigence jusque sur les grabats, dans les greniers qu'elle habite. C'est un homme! Oh, c'est un homme! Tu dois te trouver bien heureuse, Jeannette, d'avoir suivi mes désirs en épousant un si galant homme. Bien heureuse, ma mère, parfaitement heureuse, et le ciel a récompensé la docilité que je vous devais. Jeannette serra sa mère contre son sein, et bientôt ses deux amies tournèrent toute leur attention sur l'enfant, qui paraissait timide et contraint près d'elle. « Auguste, lui dit Jeannette, viens ici. »«
Je ne m'appelle pas Auguste, lui dit timidement l'enfant, je m'appelle Charles. »«
Hein, qu'est-ce qu'il dit là ?» demande Jeannette à sa mère. « Bon, répond Madame d'Héricourt, Auguste ou Charles, cela est indifférent. Apparemment, c'est qu'il a deux noms, Charles-Auguste. Dis-moi, mon petit homme, comment s'appelait ton papa ?»«
Mon papa, je n'ai pas de papa, moi. »
« Oui, il est mort, et ta maman ?»«
Ni de maman non plus. »«
Pauvre orphelin, leur nom !»
L'enfant ne répond pas. « Il a oublié, peut-être sont-ils morts depuis longtemps.
Et qui est-ce qui a eu soin de toi jusqu'à présent ?»«
Ma nourrice. »«
En quel endroit ?»
L'enfant se tait.
« Vous lui faites-là des questions ?» interrompt Jeannette, auxquelles il est impossible qu'il réponde. À cet âge tendre, est-ce qu'on se rappelle ? Il est vrai qu'à 4 ans, moi, je me souvenais de tout ce que j'avais vu à l'hospice, même des noms de mes petits camarades. Voyons, que je l'interroge à mon tour. Jeannette prend l'enfant sur ses genoux. « Tu connais bien, n'est-ce pas, le monsieur qui vient de t'amener ici ?»«
Monsieur Briceval, c'est mon bon ami. »«
Tu l'as donc vu souvent ?»
Oh, très souvent, il m'apportait toujours du bonbon, et puis il m'embrassait. Oh, je l'aime bien.
C'est chez ta nourrice qu'il allait ?
Oui, et il y avait un petit garçon bien méchant qui me pinçait toujours, et le gros chien m'a mordu en voulant me défendre. Mon ami, qui était là, m'a cru blessé, et il s'est trouvé mal.
Il s'est trouvé mal ?
Oui, et il pleurait en disant que j'étais mort, qu'il m'avait perdu. Et moi, je lui ai dit « Non, mon bon ami, je ne suis pas perdu, me voilà. »
Jeannette rougit et pâlit successivement. Sa mère s'aperçut de son trouble.
« Qu'as-tu, mon enfant ?»«
Rien, ma mère, mais c'est que... »
« Me pardonnerez-vous si je vous fais part du soupçon, injuste sans doute, qui s'élève dans mon cœur ?»
« Parle.
Cet enfant, s'il était celui de mon époux. »«
Oh non, interrompt l'enfant, il n'est pas mon papa, car il m'a bien défendu de l'appeler comme cela. »«
Vous l'entendez, ma mère ?»«
Quelle folie, Jeannette! Votre mari serait-il capable de vous présenter, d'introduire chez vous ?»«
Allons, ne parlez jamais de cela. J'ai trop d'estime pour lui pour le supposer aussi peu délicat. »
Madame d'Héricourt voulut prouver à sa fille qu'elle avait tort, mais rien ne put détruire des soupçons aussi naturels et que Jeannette se contenta de dissimuler.